and you, Kai Kello, and you are tuned into CKUT. CKUT 90.3.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Bonjour à tous, bienvenue à notre première émission de l'année 2023. Je commence par vous souhaiter une excellente année 2023, pleine de santé et plein de moments de plaisir avec votre famille et vos amis. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Wafa. Wafa, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs?
Bonjour, donc moi c'est Wafa, je suis étudiante en deuxième année à la faculté de droit à l'Université de Montréal et je suis aussi coordinatrice du projet Racisme médical à la clinique juridique de Saint-Michel.
Ah, enchantée. Alors Wafa, aujourd'hui je t'ai invitée parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de ton nouveau projet, de ton nouveau bébé, le racisme médical. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais exactement?
Oui, bien sûr. Donc, le projet de racisme médical, on a commencé à travailler là-dessus en août-septembre. La clinique avait auparavant, il y a à peu près un an, essayé de lancer le projet. Ça n'a pas trop fonctionné. Donc, ça, c'est notre deuxième shot. Beaucoup mieux. Et donc, en gros, le projet, il a vraiment pris de l'ampleur suite aux événements, les tragiques événements de Mme Joyce Chacoan. Donc, le 28 septembre 2020, le Québec a été grandement secoué par ce tragique événement. Mm-hmm. Et puis, sachant que le racisme médical n'est reconnu que depuis peu, les ressources aux victimes dans la lutte contre celui-ci sont encore très limitées. Okay. Et donc, on a vu que c'était une opportunité pour nous d'œuvrer dans notre communauté et de mettre en place des outils à toutes les victimes, mais surtout, principalement, de faire énormément de sensibilisation par rapport au sujet. Okay. Parce qu'avant cet événement, on était très peu conscients de cette réalité, on était très peu conscients de cette forme de discrimination qui était pour autant très présente dans le milieu médical. Et puis, c'est seulement suite à cet événement que ça a pris de la place dans les plateformes médiatiques au Québec, qu'on l'a reconnu et qu'on a réalisé qu'il y avait un manque flagrant de ressources.
Mais alors, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots c'est quoi le racisme médical?
Bien sûr. Donc, le racisme médical, on sait tous à peu près c'est quoi le racisme. Donc, définitivement, ça serait vraiment une discrimination basée sur la nationalité, la l'ethnicité, la couleur, la race, etc., etc.
Tout à fait.
Et fait, le racisme médical, c'est lorsqu'une discrimination basée sur ces facteurs-là va avoir lieu dans le milieu médical. Donc, souvent, c'est une forme de racisme qui est très subtile, mm-hmm. très difficile à décerner. Donc, on va souvent appeler ça un peu du gaslighting médical. Okay.
J'ai mal, mais non, c'est pas vrai, tu n'as pas mal.
Exactement. Ça va être lorsque les préoccupations concernant vos soins de santé sont ignorées, qu'elles ne sont pas entendues ou qu'elles sont minimisées par les travers de la santé, on ne va pas nécessairement être en mesure de décerner que c'est par rapport à notre couleur de peau, mais si on fait une comparaison avec une personne qui a eu exactement les mêmes besoins, les mêmes préoccupations, il va avoir eu une réponse différente des travailleurs du milieu de la santé.
OK, je comprends. Mais ça me fait penser à quelque chose. Il y a comme une statistique aux États-Unis qui disait que les femmes noires ont 4 fois plus de chances de mourir lorsqu'elles vont à l'hôpital pour accoucher que des femmes blanches. Est-ce qu'ici au Québec, on a comme tu disais que c'est comme un peu nouveau, mais est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'il y a un travail qui a déjà été fait par rapport à ça?
En fait, pour l'instant, parce que ça a fait surface il n'y a pas longtemps, il y a très peu de statistiques, très peu de faits qui ont été vérifiés. Sur ce domaine-là. Et aussi, comme j'expliquais plus tôt, puisque c'est très subtil, c'est très difficile de décerner lorsqu'on est victime de cette forme de discrimination et donc d'aller la rapporter. Donc, pour cette raison-là, très peu de recherche a été faite et c'est sur quoi nous sommes en train de travailler dans le projet. Donc, on aimerait vraiment être en mesure de mettre un peu de lumière autour de cette forme de discrimination.
Moi, je pense que c'est un excellent projet, surtout comme tu dis, c'est nouveau, mais des fois, c'est difficile quand on vit une situation est-ce que j'ai vraiment vécu du racisme, même quand c'est du racisme, j'allais dire, de base. C'est un peu difficile des fois de se dire, est-ce que c'est vraiment du racisme, est-ce que la personne est juste mal élevée ou des choses comme ça. Bref, mais je trouve que c'est quand même un très beau projet, surtout que ça a rapport avec la santé. Et on a vu les conséquences par rapport à Joyce et Chacoin. Mais de ton point de vue, c'est vraiment très, très de ton opinion. On a vu aussi que quand il y a eu le décès de Joyce et Chacoin, mais il y a eu un principe de Joyce qui avait été proposé que le gouvernement a refusé. Mais de la même façon qu'on a des enjeux avec le profilage racial, on aura des enjeux aussi avec le racisme médical. Est-ce que c'est quelque chose quand même dont vous êtes conscient? Est-ce qu'il y a quand même un support qui vous est offert au point du côté de l'administration quelconque, des exécutifs, de l'exécutif d'une façon ou d'une autre ou pas?
De la clinique?
Non, ou... vraiment de votre projet en ce moment.
Donc, par rapport à ça, juste pour renchérir sur ce que tu disais, ce qui est très intéressant, c'est que ça n'a pas nécessairement été reconnu par le gouvernement québécois, mais le Collège des médecins a bel et bien reconnu le racisme systémique au sein de sa propre institution. Donc, c'est assez curieux.
Oh, si oui. On peut Je pense qu'on a les habitudes de la maison, hein? Ça ne se change pas vraiment d'un mal à un autre.
C'est rien de nouveau, mais... Puisque, justement, on est en train de travailler sur un projet nouveau, on a énormément d'intérêt. On a vu plusieurs personnes, travailleurs de la santé, qui ont entendu parler de notre projet de bouche à oreille, qu'ils ont voulu participer, qui nous ont envoyé des encouragements. On va probablement partir notre campagne de financement durant les prochaines semaines.
Oh, wow.
Donc, on va vraiment pouvoir être en mesure de voir à quel point est-ce que, ben, en fait, les différents groupes québécois, que ce soit les entreprises, que ce soit un peu plus au niveau universitaire, au niveau médical, vraiment.
Public aussi, les CLSC.
Exactement, vraiment voir c'est quoi le retour qu'on va avoir par rapport au projet. Mais jusqu'à présent, on a un très bon retour du projet parce que c'est une nouvelle initiative, comme je t'expliquais.
Parfait. Mais ça me donne, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est quoi les projets futurs exactement pour racisme médical? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on doit attendre avec impatience?
Je suis super contente que tu m'en parles parce que c'est vraiment... un projet avec trois volets super intéressants. Donc, puisque c'était un projet de très grosse envergure, on a décidé de briser ça en trois principaux objectifs qu'on voudrait atteindre durant les prochains mois, prochaines années. En fait, le premier objectif est en lien avec un peu plus de la recherche, comme on disait. Donc, s'informer un peu sur l'état du droit, l'état social, politique, du traitement du racisme médical au Québec. Donc, on est en train de travailler sur des écrits qu'on va pouvoir partager à la population. Donc, non seulement pour les informer de l'État, mais aussi leur offrir des outils pour que la population soit au courant de ses droits, au courant les recours disponibles si jamais ils sont victimes. Donc, vraiment, rendre ça assez user-friendly, comme on dirait. Ensuite, le deuxième volet, ça serait vraiment... un volet d'accompagnement pour les victimes. Donc là, ce serait un volet d'accompagnement juridique. Donc, une fois que je suis victime de racisme médical, je veux entreprendre des démarches. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? On se tourne vers la clinique. On aimerait proposer un peu un outil juridique.
Oh, génial.
Exactement. Et le deuxième volet, qui est aussi très intéressant, je trouve, c'est une assistance psychologique. Parce qu'on oublie de prendre... Souvent, on oublie que cette forme de racisme va souvent venir avec des impacts... traumatisants pour les victimes qui vont devoir un peu naviguer à travers ça.
Tout à fait.
Et il n'y a pas nécessairement les ressources au fait. Donc, on aimerait être en mesure d'offrir aussi un soutien psychologique aux victimes. Et enfin, ça mène à mon troisième volet qui est un volet de sensibilisation. En fait, on est en ce moment en train de travailler sur un grand événement qui va avoir lieu le 19 mai à la TOHU, qui va être une soirée de partage de témoignages. Donc, ça va être une galerie de photos de personnes qui ont été victimes de racisme médical avec leurs témoignages. On va recevoir aussi des personnes de la sphère québécoise, donc des personnalités de la sphère québécoise qui vont venir partager et leur expérience et qui vont aussi venir soutenir la cause et tout. Donc, 19 mai à la TOHU à 18h. Des informations viendront très probablement prochainement.
C'est vraiment de très beaux projets. Au niveau de l'information, tu mentionnais que vous vouliez faire comme quelque chose d'information pour que ce soit accessible, j'imagine, un peu avec monsieur et madame tout le monde. Est-ce que c'est vraiment un projet uniquement avec la clinique ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans? Est-ce qu'il y a une façon de s'impliquer pour aider? Est-ce que tu cherches des bénévoles? Comment est-ce que si on veut aider, est-ce que tu as suffisamment d'aide ou est-ce qu'on peut aider?
Donc, en ce moment, ce qu'on a réalisé, en fait, en travaillant sur le projet, c'est que c'est tellement un grand enjeu qu'on fait face à plusieurs petites sous-branches du problème. Donc, c'est très, très large. Et en fait, notre principal objectif en ce moment, puisqu'on est une équipe de 4-5 bénévoles qui travaillent là-dessus, on a 3-4 professionnels, donc 3 du milieu de la santé, 2 avocates qui travaillent avec nous sur le projet, c'est qu'on doit malheureusement se limiter dans l'étendue de notre travail. Donc, vraiment, notre principal challenge, si je peux dire, ça serait vraiment au niveau financier. Donc, nécessairement, si on avait plus de fonds, ça serait plus facile pour nous d'étendre le projet. Et donc, certainement, si vous êtes intéressé par le projet, si vous pensez que vous pouvez contribuer d'une manière ou de l'autre, vous pouvez nous contacter à tout moment sur notre adresse courriel, donc racismemedical@cgsm.ca.
Tout à fait.
Et si vous êtes des professionnels qui avaient des expériences à partager, si vous avez un input de quelque forme que ce soit, on va bien évidemment être ouvert parce que, vu l'ampleur du projet, c'est vraiment, on ne peut pas, certainement pas se limiter. Et pour les bénévoles, en fait, notre équipe en ce moment, elle est complète, mais c'est certain qu'on va être ouvert si vous avez une certaine aide à apporter. Mais encore une fois, ce serait vraiment au niveau financier que du soutien serait énormément apprécié.
Parfait. Et une autre question aussi que j'avais, c'était vraiment au niveau des témoignages. Est-ce que tu as assez suffisamment de personnes? Comment est-ce qu'on pourrait vous contacter de la même façon par courriel pour offrir un témoignage, partager son histoire?
T'offre un super bon point qui se rattache à notre événement de la TEU le 19 mai. Donc, nous sommes présentement à la recherche de témoignages de personnes qui ont été victimes de racisme médical. Donc, vous pouvez nous contacter sur notre adresse courriel, donc racisme médical, médical sans E, @cgsm.ca. Et on va partager dans les prochains jours une vidéo qui explique le projet, qui explique l'ampleur du projet. Il y aura un formulaire, un lien sur lequel vous pouvez cliquer, remplir et on vous contactera par la suite si vous voulez donner votre témoignage. Donc, vous pouvez témoigner de façon anonyme. Ou encore, si vous voulez, vous êtes prêt à ce que votre témoignage soit exposé à l'événement, que votre photo y soit, ou si vous voulez être présent à l'événement, vous pouvez aussi le faire de façon non anonyme. Donc, c'est vraiment par rapport au confort de chacun et chacune.
Mais Wafa, moi, très sincèrement, de façon un peu candide, je vais te demander, tu sais, mettons, quand tu vis quelque chose de façon générale, des fois, on a souvent le sentiment d'être tout le temps les chialeux, les gens qui se plaignent. Mais des fois, les gens peuvent vivre des affaires, puis on va dire c'est toujours les mêmes qui sont fâchés, c'est toujours les mêmes qui ont de quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour qu'elles se sentent confortables? Parce que j'imagine que certains de nos auditeurs, peut-être que vous dites que peut-être que vous êtes trop sensible, peut-être que c'était pas vraiment ça. Mais sur quoi est-ce qu'on peut se fier pour pouvoir vraiment être affirmatif? Oui, j'ai vécu du racisme médical, puis oui, j'ai le droit de me plaindre.
Super intéressant de quoi tu es en train de me faire part. Et ça revient à ce que j'expliquais au début. Donc, le racisme médical, ça va être souvent très subtil et ça va être des préoccupations, des concernements des individus qui vont être ignorés, pas entendus ou encore minimisés. Mm-hmm. Et donc ça me rapporte à des syndromes. Un phénomène qui se qualifie différemment dans différentes parties du monde et qu'on appelle entre autres soit le Angry Black Woman ou encore le syndrome méditerranéen en Europe. En quoi ça consiste? Le Angry Black Woman Syndrome a été plus développé aux États-Unis et en fait, c'est basé sur le fait qu'on va souvent accuser les femmes de couleur de peau noire de se plaindre beaucoup trop, d'avoir beaucoup trop de demandes et de exagérer leurs symptômes ou exagérer leurs douleurs et tout. Et en fait, on va minimiser, on va les décrédibiliser par leur nationalité ou par leur couleur de peau parce qu'il y a des recherches qui ont été faites qui démontraient que pour les mêmes douleurs, les mêmes maladies, les mêmes souffrances, une femme de couleur de peau blanche, les réactions des travers de la santé vont être complètement différentes de ceux d'une femme noire.
OK.
Et donc, si on va un petit peu plus vers le syndrome méditerranéen qui a été développé en Europe, en quoi ça consiste, en fait, c'est que ça va être les personnes qui proviennent de la Méditerranée. Donc, ici, on parle principalement des personnes d'Afrique du Nord qui, elles, vont faire face exactement au même problème. Donc, les travailleurs de la santé vont beaucoup moins prendre en considération leurs besoins. Ils vont être beaucoup plus négligés. On va leur dire qu'elles exagèrent, qu'elles en demandent trop, qu'elles ne sont pas réaliste. En fait, nécessairement, cette répétition très subtile mais très néfaste à un usager de la santé va faire en sorte que celui-ci va finir par perdre avec le temps la confiance qu'il a envers le système de santé.
Tout à fait.
Encore une fois, c'est très mauvais parce que le droit à la santé, les droits d'usager sont essentiels, primordiaux. Mm-hmm. Et donc, définitivement, si on sent que son besoin à la sécurité n'est pas comblé, il est difficile de garder une certaine confiance avec l'institution.
Définitivement.
Exactement, on va nous entendre à la suite de ça. Et puis, après, c'est un cercle vicieux parce qu'on chiale et on se fait reprocher qu'on chiale trop et puis ainsi de suite, comme tu dis, tu expliquais.
Mais je trouve que c'est encore même plus tordu, si on me permet l'expression, parce que moi, je suis une femme noire, puis racisme médical, j'en ai vécu au Québec, mais je n'étais pas capable de mettre le nom là-dessus. Ou quand tu dis à ton médecin, j'ai mal, et il te dit... Non, c'est pas vrai, c'est pas possible que vous ayez mal. C'est comme, non, j'ai mal, j'invente pas des affaires. Mais on finit par baisser les bras parce qu'à la fin de la journée, c'est le médecin et toi, tu es le patient. C'est pas le pâtissier, c'est pas le boulanger, c'est le médecin. Donc, à la fin, tu te dis, ben, il porte une blouse blanche, peut-être qu'il sait mieux que moi, peut-être que je vais pas bien dans ma tête, peut-être que c'est pas si grave que ça. Donc, c'est vraiment la vie des gens qui est sur la ligne, là. On parle pas de quelque chose de... Pas comme si les autres formes de racisme sont légères, mais c'est quand même... C'est très dangereux. Puis on l'a vu avec Joyce et Chacoan. Donc, je pense que le projet est vraiment pertinent. Mm. Mais oui?
Donc, je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est extrêmement pertinent ce que tu disais. Et en fait, ça me rappelle un point que Maître Elie Drissi avait abordé lors d'une de ses formations qu'elle avait offertes sur le racisme médical à la clinique juridique. Et en fait, elle avait apporté un point qui était tellement simple et que... qui, je trouve, est important de partager, c'est votre corps. Vous connaissez vos besoins mieux que n'importe quel autre médecin. Le médecin n'est pas dans votre peau.
Exactement.
Si vous pensez que quelque chose cloche, c'est que définitivement, il y a quelque chose à aller chercher.
Définitivement.
Et ce qui est malheureux, c'est que les usagers du système de la santé au Québec ne connaissent pas leurs droits.
Non.
Je ne sais pas pour toi, mais si je te demandais de m'énumérer tes droits par rapport au milieu de la santé, je ne pense pas.
Mais tu vas rire parce que c'est vrai, à ce moment-là, je ne connaissais pas mes droits. Parce que quand ça s'est passé spécifiquement, cet incident-là, je n'ai absolument rien fait. Mais avec du recul, je suis comme, mais j'avais des recours. Mais de toutes les façons, c'est plus... Je pense que l'aspect du support psychologique est vraiment pertinent dedans parce que après ça, c'est mettons si tu as des symptômes que ça prend du temps à diagnostiquer, on sait pas ce que tu as, tu fais vraiment te remettre en question. Mais tu perds pas confiance juste par rapport à tes symptômes, tu perds confiance par rapport à ta... Est-ce que je suis vraiment insane? Est-ce que...
Sanité.
Oui. Est-ce que c'est moi qui rêve? Mais quelques années plus tard, j'ai rencontré un médecin qui m'a dit ceci. Il m'a dit, nous, à l'école, on apprend la formation sur des statistiques. C'est-à-dire qu'ils apprennent à tirer des conclusions sur la majorité des cas qu'ils rencontrent, mais il y a toujours une exception. Et puis ça se peut qu'on sait jamais qu'on est nous l'exception, mais ça se peut qu'on soit l'exception. Donc je suis vraiment d'accord avec ce que l'avocate en question a mentionné. C'est notre corps, c'est nous qui le savons. Fait qu'il faudrait vraiment qu'on soit affirmatif de quand est-ce qu'on a nos symptômes, puis vraiment insister pour avoir de l'aide. Ça me fait penser justement à la célèbre joueuse de tennis,
Serena Williams,
qui a failli décéder quand elle a eu son bébé à l'hôpital parce qu'elle disait qu'elle se sentait pas bien, on ne la prenait pas au sérieux. C'est une femme, non, mais c'est une femme qui est connue. Je veux dire, c'est une athlète de grand renom. Si elle dit qu'elle fait pas des caprices. Donc, il y a vraiment un phénomène vraiment de diminution, puis elle a insisté pour pouvoir recevoir du soutien médical, puis quand on s'en est rendu compte, elle faisait une embolie pulmonaire. Donc, c'est vraiment important. Mes droits, maintenant, oui, je les connais, mais je les connais parce que j'ai fait de la recherche l'année passée sur la responsabilité, surtout la responsabilité des professionnels de la santé. Mais je ne pense pas que c'est une information qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde, qui saura quoi taper sur Google pour trouver c'est quoi ses recours. Donc, je pense que le projet a vraiment tout son sens et toute sa place.
Merci énormément. J'aimerais aussi revenir sur un autre point qui était abordé par rapport à le fait que les usagers qui vont pas être écoutés vont souvent se questionner sur leur santé mentale.
Oui.
Mais ça m'amène à un autre point. Les personnes qui, elles, souffrent de problèmes de santé mentale.
Oh mon Dieu.
Elles, c'est un tout autre challenge auquel elles font face. Et encore une fois, Dr. Wolf Tima, qui lui est résident en médecine en psychiatrie,
oui.
Ou encore Maître Elie Drissi, qui, elle, fait beaucoup de responsabilités médicales en milieu de la santé mentale, nous en ont énormément parlé. En fait, ces personnes-là sont énormément vulnérables dans ce genre de situation.
Définitivement.
Non seulement elles le sont pour leur couleur de peau, leur race, leur origine, leur religion, quoi que ce soit, mais en plus de ça, elles-mêmes ne sont pas vues par le système de santé comme étant saines mentalement. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on voit que les professionnels de la santé, lorsque les personnes atteintes de maladies mentales vont mettre sous forme de mots leurs besoins, ils vont se voir complètement ignorés parce qu'on va les mettre soit sur la faute de leur santé mentale ou encore sur un aspect un peu plus en lien avec la maladie en tant que telle. Souvent, on va exagérer leurs symptômes. Souvent aussi, ce qu'on a vu, c'est que leurs croyances religieuses, on va les attribuer à vraiment des problèmes de santé mentale. Souvent aussi, des personnes qui vont avoir de la difficulté à s'exprimer, le médecin à la place de dans la langue, à la place d'essayer de comprendre exactement le besoin, on va décider tout simplement de les catégoriser dans des problèmes de santé mentale.
Oh, wow.
Ces personnes-là sont même pas en mesure d'être conscientes de leur propre personne, alors là, de leur corps, et être en mesure de mettre sous forme de mots leurs besoins. C'est un très gros défi qui est une branche de notre projet sur lequel on aimerait probablement essayer de se pencher aussi.
Plus on en parle, plus on se rend compte que les ramifications sont vraiment énormes.
Exactement.
Ça vient vraiment toucher beaucoup d'aspects de personnes, de critères particuliers, de citoyens de notre province. Mais écoute, Wafa, moi, j'ai vraiment beaucoup appris avec toi. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, j'ai très hâte de voir les informations que vous allez pouvoir rendre disponibles pour le public. Et on a dit le 19 mai à la TOU à
18h.
Et si on a besoin de vous contacter pour les témoignages, c'est
Vous pouvez nous contacter à notre adresse courriel racismemedical@cgsm.ca, médical sans E à la fin. Et vous pouvez aussi nous contacter à travers les réseaux sociaux de la clinique juridique de Saint-Michel à tout moment, et puis les messages vont nous être redirigés.
Parfait. Puis également, on a, si vous voulez participer à ce projet-là de façon par des dons financiers,
effectivement,
on peut aussi le faire en vous écrivant un courriel directement.
Exactement.
Alors, je vous souhaite encore une fois de plus une excellente année 2023. Au plaisir de continuer à partager avec vous des informations juridiques.
Merci.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Neolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Saturday, February 4th, 2023. More Entertainment presents A Party for the Grown and Sexy. Sexy. Anyway. Icons of Soul. Inside the Caribbean Food Factory, 5311 de Mezenov West, featuring live out of Toronto, Canada, Bill Cosby.
Not that I don't love you.
Also from Montreal, Crystal Sound, Little Vicious, and DJ Nicholas. Early bird tickets at $25. More at the door. Tickets available at Ghost Coiffeur, Green's Restaurant, or call 514-804-1774. This is a classy event, so dress to impress. Icons of Soul, Saturday, February 4th, 2023.
CKUT is looking for a full-time sales and administrative coordinator. The sales and administrative coordinator is responsible for the sale of on-air advertisements and co-presentation partnerships, as well as the negotiating of the radio station's administrative contractual agreements. The ideal candidate will have a passion for community radio, the ability to work with volunteers, clients, and community members, is well-organized, and has strong negotiating skills. We are looking for someone with knowledge of Montreal's arts, culture, and activity scenes who sees media as a tool for building community and can work in a non-hierarchical organization. Financial literacy, bilingualism, and experience with Google Suite products are also a requirement. For full details about the position, wage, and benefits, please visit ckut.ca. The cutoff for applications is Monday, February 6th at 5 p.m. CKUT strives to be a progressive working environment and recognizes experience outside of the formal workplace as important qualifications. We value the unique contributions that individuals from traditionally underrepresented and oppressed communities bring to our organization and encourage these individuals to apply.
Make sure my levels are at around 8.
CKUT 90.3 FM.
Blah, blah, blah.
It's kind of a tongue twister.
Am I popping my peas?
CKUT 90.3 FM.
Start again.
Oh, should I do that? Okay.
I need a script.
CKUT 90.3 FM.
So you want me to go through it again and actually say that?
This sounds so repetitive.
See, now I can't do it. Once more, okay.
CKUT 90.3 FM.
Oh, I'm sorry.
Wait, wait, do you want me to say hello?
I'll have to do another one.
Yeah, maybe one last one.
Radio CKUT 90.3 FM.
Are you recording? You are? Oh. Can you press stop?
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir, si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast « Touche pas à mes droits ». Mon nom est Grace, je suis accompagnée de Sabrina et du professeur Mulon.
Le professeur Mulon est professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, chercheur et expert en profilage racial. Vos recherches portent sur les discriminations raciales dans les pratiques policières, les questions de profilage racial, racisme systémique et plus globalement la relation entre la police et les communautés racisées sont au cœur de votre expertise. Et vous travaillez aussi en collaboration avec des organisations policières dans le but de comprendre les dynamiques qui participent aux disparités de traitement observées pendant vos recherches. C'est bien ça?
Oui, ça fait partie effectivement de mon expertise. Je m'intéresse aussi au contrôle des pratiques policières, la déontologie, le bureau des enquêtes indépendantes.
Alors, on a très hâte d'avoir cette entrevue avec vous. On est très contente que vous ayez accepté de vous joindre à nous. Et notre première question, c'est pour quelles raisons avez-vous choisi ce champ de recherche?
Alors, je vous avouerai que je n'ai pas choisi ce genre de recherche. Il m'est tombé un peu dessus. En 2017, j'ai été contacté par le SPVM pour me demander si j'étais intéressé à participer à une analyse de leur interpellation en lien avec les discriminations raciales. C'était un mandat qui leur avait été imposé par la ville de Montréal à l'époque de Denis Coderre. Et donc, ils ont cherché des chercheurs. Il y a eu moi, il y a eu Victor Armani et Maria Massaoui qui avaient été sélectionné par le SPVM. Alors moi, j'avais une longue histoire, je dirais, peut-être pas jusque-là, mais ça faisait un certain temps que je faisais de la recherche sur la police, c'est mon sujet de recherche principal, et donc j'avais à plusieurs reprises dans le passé collaboré, notamment avec le SPVM, sur des projets de recherche, mais ce sujet-là en particulier, c'était vraiment la toute première fois, si vous voulez, que j'allais travailler là-dessus, à l'exception peut-être, il y a très longtemps, d'un rapport que j'avais co-écrit avant même d'être professeur. J'ai travaillé pour le Centre international pour la prévention de la criminalité et on avait fait un rapport sur les émeutes à Montréal-Nord avec Villanova. Donc c'est la première fois. Donc j'ai commencé à ce moment-là, en 2017, on a fait notre première recherche qui a donné lieu à une publication en 2019, à l'automne 2019. Suite à cette publication, là, j'ai participé à une autre recherche, notamment à Rampantigny, sur les mêmes enjeux. Le SPVM a réengagé la même équipe de recherche pour continuer les travaux sur ces enjeux-là au sein de leur collaboration. Alors, cette recherche-là est en cours actuellement. Et puis, tout n'est pas encore décidé, mais il est possible aussi qu'on travaille sur ces enjeux-là, mais au niveau plus de la province, notamment en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique.
Merci. Et puis, l'une des choses qu'on aimerait savoir, c'est quel est votre constat de la place qu'occupe le profilage racial, ou du moins le débat qu'occupe le profilage racial au niveau de la société, au niveau des débats sociaux qui existent?
C'est fluctuant, c'est-à-dire qu'il y a eu une phase qui a probablement culminé avec George Floyd, donc, dans laquelle il y a eu toute une série évidemment d'événements surtout aux États-Unis, surtout au sud de la frontière, mais qui ont eu l'écho ici. Il y a eu d'autres événements ici aussi. Il y a eu notre rapport. Puis il y a eu George Floyd. Puis à ce moment-là, on en a parlé beaucoup. Il y a eu une place qui était très importante. Évidemment, il y a eu aussi l'affaire terrible de Joyce Echaquan, qui touchait pas à la police, mais qui touchait aussi des enjeux de racisme. Et donc, on en a parlé beaucoup. On en parle encore un peu, mais c'est sûr que, par exemple, sur les questions policières, ces enjeux-là de discrimination raciale ont été en grande partie éclipsés aujourd'hui par tout le débat sur les violences armées, qui est devenu l'enjeu médiatique, politique le plus important, en tout cas le plus présent. Mais je pense pas qu'il ait disparu. Par contre, hein, ça reste un des enjeux qui a été par exemple discuté par le comité consultatif sur la réalité policière. Hein, donc c'est un enjeu qui je pense est encore d'actualité au sein du gouvernement actuel renouvelé. Là, mais quelle est son importance dans le débat? C'est toujours très difficile à dire. Je suis pas devin. Je sais pas comment les choses vont perdurer. Mais nous, on est encore impliqués dans des recherches là-dessus. Il y a encore une volonté pour le SPVM de prendre en considération, de réfléchir à cette problématique-là. Donc, c'est pas mort. Mais c'est sûr qu'on en parle beaucoup moins aujourd'hui qu'avant, ce qui est tout à fait normal, parce que même médiatiquement, un média survit pas longtemps à répéter la même information tout le temps. Les gens vont se lasser. Et c'est aussi important le débat soit-il, en fait. Hein, c'est comme ça que ça marche. Donc, moi, je trouve ça bien qu'on en ait parlé. C'est sûr qu'il y a des enjeux, hein, de manque de reconnaissance de certains termes du débat sur les personnes qui veulent pas comprendre ou qui font semblant de pas comprendre, par exemple, ce qu'est le racisme systémique. C'est problématique. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense quand même que... j'ai essayé d'être optimiste. Et donc de me dire qu'on a avancé un petit peu et puis que le débat est loin d'être clos, en fait. Puis c'est des débats qui m'apparaissent très importants, que ça soit avec les différentes populations racisées de Montréal, par exemple, ou les Premières Nations, ou etc., à l'échelle de la province. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de groupes de militants, de groupes communautaires, des groupes de la société civile qui, encore aujourd'hui, travaillent d'arrache-pied pour que ces enjeux-là soient discutés, soient débattus. Et donc, j'ai comme un peu confiance qu'on ne va pas oublier ça.
J'espère que vous avez raison, mais on se demande un peu, dans le contexte social actuel, est-ce que vous ne pensez pas que la non-reconnaissance de l'existence du racisme systémique est un peu un foyer fécond pour la non-reconnaissance du profilage racial lui-même et à ce moment-là un obstacle aussi pour des solutions?
Alors définitivement, le fait qu'on ait un premier ministre qui refuse de reconnaître cette évidence, en fait, parce que c'est pas un débat à avoir. La question n'est pas y a-t-il des discriminations systémiques au Québec. C'est un fait, c'est-à-dire que les données sont sans ambiguïté, et pas seulement en matière policière, mais dans toute une série de domaines, on voit bien il y a des groupes qui sont discriminés, et ces discriminations, elles peuvent pas à nouveau être attribuées à la malveillance d'une poignée d'individus qui, en situation de pouvoir, décideraient qu'une partie de la population reste dans une forme de précarité, dans une forme de répression, etc. Peu importe. C'est pas ça. Le problème, c'est que la manière dont fonctionnent certaines de nos institutions produisent des discriminations de manière involontaire, inconscient, mais de manière systémique. C'est-à-dire, c'est le système qui est structuré comme ça. Et donc, si on reconnaît pas ça, ben, on peut pas agir. Parce que si vous pensez que le problème, c'est un problème individuel, ben, il faut trouver des personnes mal intentionnées, des personnes racistes, puis vous voulez neutraliser. Ouais, vous dites, OK, vous êtes plus en position de pouvoir, vous pouvez plus mettre en action de manière dommageable pour les autres vos valeurs racistes, etc. Bon. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, ou du moins, il n'est pas seulement là, je pense. Le problème, c'est que si vous dites que le problème est systémique, c'est en fonctionnement du système, là, ce que vous devez vous attaquer, c'est qu'est-ce qui, dans le système, favorise ces discriminations-là, et comment on peut réformer le système pour que les discriminations soient elle diminuée ou réduite à néant. C'est donc évidemment la non reconnaissance est extrêmement problématique. Et je pense qu'on est encore dans cet enjeu-là de devoir faire reconnaître politiquement ce problème-là, la nature systémique du problème de discrimination, parce que sinon vous n'allez jamais trouver la réponse, une bonne réponse en fait à ces problèmes.
Et justement, parlant de non-reconnaissance, il y a quand même un certain nombre d'études, de rapports qui sont faits au Québec, mais aussi chez nos voisins ontariens. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'expertise, d'études qui sont faites au Québec? Et puis, sinon, pour quelles raisons?
Je ne dirais jamais qu'il y a trop d'études qui sont faites. Hein. C'est mon métier. Mais si vous voulez, alors Il y a plusieurs choses. C'est que des études sur les questions de discrimination raciale dans les pratiques policières ou des rapports ou des, ça fait très longtemps que ça existe. C'est pas une nouveauté. C'est pas la première fois qu'on dit, ah, il y a des problèmes de discrimination raciale dans les pratiques policières. C'est au contraire. Ça fait des décennies qu'on en parle au Québec, ailleurs. Hein, je veux dire, je vise pas le Québec en particulier, et tout ça. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau ces dernières années, ça c'est vraiment nouveau. C'est qu'il y a une volonté politique de forcer les services de police à ouvrir leurs données à des chercheurs indépendants pour travailler sur ces enjeux-là. Et c'est ce que nous, on a fait à Montréal, c'est ce qu'on a fait à Repentigny, mais c'est aussi ce qui a été fait à Halifax, à Edmonton, à Vancouver, à Toronto, à Ottawa, etc., etc. Et ça, c'est vraiment dans les dernières années. C'est une série d'études, de rapports de recherche, dans les 6-7 dernières années, qui ont porté sur des villes canadiennes, donc vraiment au Canada, et qui montrent toutes des disparités. Alors, il y en a une, c'est celle de Vancouver, où ils disent non, les disparités se justifient par une différenciation en termes de pratiques criminelles, mais toutes les autres disent pas ça. Certaines vérifient ces liens entre la criminalité éventuellement et les pratiques. Il y en a qui sont sur les interceptions de véhicules, il y en a qui sont seulement sur les interpellations, des fois sur les deux. Il y en a qui sont sur les arrestations, d'autres sur l'emploi de la force. Mais on en a, et ce qui est nouveau, c'est le fait que cette fois-ci, on l'étudie avec les données de l'intérieur de la police. Ça, c'est très important parce que ça a forcé, à mon avis, une reconnaissance des forces de l'ordre qu'il y a un problème. Parce qu'ils pouvaient plus se dire l'étude XY qui dit qu'il y a des discriminations raciales dans notre service de police, elle s'appuie sur les témoignages de personnes qui ont été arrêtées ou interpellées. Mais bon, ces témoignages-là, c'est une perception subjective d'une réalité. Ils savent pas exactement pourquoi ils ont été arrêtés. Ça veut pas dire qu'il y a pas de raison. Et puis il y a tous des arguments qui méthodologiquement peuvent être tout à fait valides par ailleurs, mais qui permettaient de dire bon ben on pense pas qu'il y a un problème fondamental dans la police. Là, les directions ont été forcées un petit peu de reconnaître quelque chose. Alors quoi exactement? Il y a encore matière à débat, ça dépend des services de police, mais il y a une reconnaissance. Ça, c'est nouveau. Est-ce qu'il y en a assez aujourd'hui? C'est-à-dire que il y en a assez pour être sûr qu'il y a un problème qui se limite pas ni à Montréal, ni à Repentigny, ni au Québec. Là, que c'est, et puis... ni au Canada par ailleurs, mais maintenant d'essayer de mieux comprendre, et puis pas seulement de mieux comprendre, mais je crois que un des intérêts aussi, puis ce qu'on voulait aussi que notre, puis c'était pas seulement nous qui voulions ça, mais le mandat de notre première recherche avec le SPVM, il y avait une volonté de créer des indicateurs hein, dans le but de pouvoir répliquer cette information-là d'année en année et puis de voir des tendances. Parce que l'objectif après avoir fait l'étude, de faire le constat en lui-même, c'est pas qu'il est pas intéressant. Mais il faut aussi se dire, bon d'accord, mais vers où allons-nous? Et le fait d'avoir des indicateurs et des études qui se répètent, par exemple, pour voir si les choses changent ou pas, ça c'est très important en fait. C'est très important de continuer à monitorer, à surveiller pour voir, mais est-ce que les pratiques policières de telle ville ou tel type de pratique dans telle ville, est-ce qu'on observe une diminution des disparités qu'on a pu observer à une autre époque? Et puis si oui, ben est-ce qu'on peut l'attribuer à quoi, etc. Sinon, comment y réagir? Donc ça, c'est très important que ça reste, en fait. Et donc, au-delà de défendre mon métier, qui est celui de faire des recherches, je pense que c'est utile. Donc, il y en a déjà un certain nombre. Il y a un poids empirique qui est fort, qui est puissant, mais qui, en même temps, doit être continué, parce qu'il faut qu'on continue de voir les tendances. Est-ce qu'on va vers le mieux, en gros?
Mais votre réponse m'oblige un peu à me questionner. C'est bien qu'il y ait beaucoup de recherches, c'est bien qu'il y ait beaucoup de rapports qui soient écrits, mais comment est-ce que, selon vous, comment est-ce que la société, les tribunaux, comment le monde le reçoit?
Alors, comme je ne suis pas dans la tête du monde, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils reçoivent.
C'est une opinion peut-être très subjective, mais...
Ouais, vous savez, la police, c'est un objet très polarisant. C'est rare d'être indifférent à la police. Il y a plein de métiers pour lesquels on a une indifférence assez marquée. On se dit pas est-ce que j'aime ou j'aime pas les
boulangers.
Les boulangers. Est-ce que ça crée pas de passion à Noël, il y a personne qui se fâche à cause de ça. Un débat sur la boulangerie. Par contre, la police, oui. La police c'est très polarisant. Il y a vraiment les gens vont soit vraiment aimer la police, soit vraiment pas aimer la police. Et un rapport comme celui-là, ou comme ceux sur lesquels j'ai travaillé, ou les autres, c'est sûr qu'il participe à polariser les points de vue, malheureusement. Moi, j'aimerais que non, hein. Mais dans le fond, le rapport, il est reçu. C'est-à-dire que qu'est-ce que les gens reçoivent? Notre rapport, le premier rapport, il fait 135 pages. Il y a deux ou trois résultats du rapport qui ont été médiatisés, et puis c'est ça que les gens reçoivent. Puis c'est pas une critique que je fais aux gens. Pourquoi vous avez pas lu les 135 jeux? J'ai moi-même mieux à faire probablement de mes journées, donc je comprends très bien. Mais c'est trois, quatre résultats qui sortent, qui sont très, qui sont assez spectaculaire. Alors on va dire voilà, les noirs ont quatre fois plus de chances que les blancs de se faire interpeller à Montréal. Voici un résultat spectaculaire. Là, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des gens qui aiment pas la police et qui vont dire on a la preuve. Hein. J'ai bien raison de pas aimer la police et je l'aime encore moins aujourd'hui. Et puis des autres personnes qui prennent tout le temps la défense de la police peut-être, puis qui vont trouver des excuses. Ah oui, mais c'est peut-être parce que les noirs sont plus criminels que les blancs, etc., etc. Qui vont trouver des raisons d'expliquer cette disparité, qui ne mettent pas en cause le métier, la pratique policière elle-même. Alors, est-ce que ça a fait avancer les choses? Mais est-ce que ça a un impact? Moi, j'ai l'impression, malgré tout, qu'au moins on en parle. Les politiciens se sentent obligés de faire quelque chose avec ça parce qu'on en parle. Les groupes militants ont des données supplémentaires sur lesquelles appuyer leurs revendications et leur militantisme. Les tribunaux, s'ils veulent utiliser ces données-là, parce que c'est des données empirique, solide, etc. Ben, ils peuvent le faire. Ça, je sais que ça a déjà été utilisé dans certaines décisions de justice. Donc, après, c'est juste un rapport, quoi. Dans le sens que, voilà, on peut pas penser que ça change le monde. Une simple recherche. Moi, je suis très heureux de l'écho que cette recherche a eu, parce que je peux pas, j'ai jamais eu autant d'écho d'une recherche. Moi, je travaillais beaucoup au début de ma carrière sur la privatisation de la sécurité. Ça intéressait pas les foules, hein. Les gens se déchiraient pas la chemise pour ça. Donc, c'est sûr que de voir un écho social, politique, derrière tout ça, je trouve ça bien, en fait. Après, ça change pas tout, mais c'est peut-être une brique de plus vers une meilleure société, j'espère.
Justement, en parlant de quantité d'expertise, je dirais, il y a l'un de vos homologues qui s'appelle professeur Ted Wheatland, qui lui pense comme vous. Il pense qu'il n'en manque pas d'expertise, qu'il y en a réellement. Par contre, ce qu'il dit, c'est, et je cite, l'échec de la lutte contre le profilage n'est pas en tant que tel dû au manque d'expertise à ce sujet et aux propositions de solutions pour l'éradiquer, mais au manque de volonté des politiciens pour faire appliquer ces solutions. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation?
C'est-à-dire que je suis d'accord et pas tout d'accord en même temps. C'est-à-dire que il y a de l'expertise, mais il y a encore un savoir à consolider, je crois. Malgré tout, c'est-à-dire qu'on doit continuer à réfléchir à ces questions parce que ces questions sont vraiment complexes. Je ne crois pas que on a résolu toute l'histoire. La question est-ce que les pratiques policières produisent des discriminations raciales? Oui, là-dessus, j'ai pas besoin de faire 150 études de plus pour le savoir. Il y a aucun doute. Ok. Maintenant, savoir lesquelles ils sont le plus sensibles. Ou quelles sont celles qui posent le plus de problèmes? Pourquoi c'est celles-ci qui posent le plus de problèmes? Comment faire est-ce qu'on peut réformer des pratiques qui peuvent être problématiques pour les rendre moins problématiques ou non problématiques, ou est-ce qu'il faut éliminer ces pratiques, etc. Ça, c'est des enjeux qui sont plus complexes et même qui touchent le métier policier est un métier complexe en fait, c'est un métier très varié aussi avec beaucoup de différentes pratiques et donc c'est il n'y a pas une solution simple. Donc moi, je ne crois pas qu'on est dans un qu'on sait déjà tout, que l'expertise. Mais oui, dire se questionner, y a-t-il des disparités de traitement dans les. Je pense qu'on peut arrêter de se questionner là-dessus. Y en a, comme il y en a dans l'éducation, dans l'emploi, dans la santé, etc. Malheureusement, et il faut faire quelque chose pour les changer. Donc ça, c'est évident. Maintenant, le manque, il y a effectivement alors. Un manque, du moins, de certains groupes politiques, un manque d'intérêt à vouloir apporter des changements concrets, des solutions concrètes. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a une partie de la population qui ne croit pas qu'il faille changer quoi que ce soit. Que cette partie, elle n'est pas minoritaire. Et que les politiciens, c'est avec eux qu'ils dealent. Et donc, à nouveau, le problème est complexe. Parce que On attend de la police, c'est-à-dire que on attend des choses à la police. La population demande des choses à la police, et parfois ce qu'elle demande à la police, ça produit des discriminations. Hein, c'est que si vous appelez la police tout le temps parce qu'il y a des itinérants devant chez vous, il y a pas mal de chances que, à force, vous allez faire en sorte que des itinérants dont une partie significative va être membre des Premières Nations, etc. Est-ce que vous n'allez pas augmenter l'action policière sur des groupes racisés? Probablement que oui. Est-ce que c'est de la faute du citoyen qui appelle? Parce que peut-être qu'il a une bonne raison d'appeler. Puis que peut-être qu'effectivement, il faut que quelqu'un intervienne. Mais pourquoi est-ce que c'est la police? Et tout ça, déjà, c'est, juste ces questions-là, ça commence à devenir quelque chose de compliqué. On se dit, pourquoi est-ce que la police se retrouve à intervenir dans des situations pour lesquelles c'est clairement pas la solution adéquate? Généralement, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution, ou que les ressources qui sont mises en place sont insuffisantes. Et ça, c'est une volonté politique, ça c'est clair. Mais le problème qu'il y a dans notre société, c'est le suivant. C'est que la police occupe une place symbolique énorme. Elle a un pouvoir symbolique dans la société qui est énorme, c'est qu'elle est, dans la tête des gens, l'outil numéro un qui nous protège du crime. Et puis ça, c'est profondément ancré dans la tête de plein de personnes. Il y a un problème de criminalité, appelle la police. Puis ça, déjà, c'est une première erreur, entre guillemets, c'est parce que la police, elle a une action sur le crime, elle fait un truc que seule elle fait, c'est qu'elle amène des individus devant le DPCP, et donc permet une arrestation, et éventuellement quelqu'un va être poursuivi et sanctionné au pénal. Donc ça, c'est très particulier, c'est une position unique dans notre société, mais est-ce que c'est vraiment la police qui est l'outil de contrôle social, qui fait en sorte que les gens respectent les normes sociales majoritairement? Non. Le contrôle social, il est effectué par plein de choses, votre famille, vos amis, l'école, le travail, etc. Et eux régulent beaucoup votre comportement. Comment vous habillez, comment vous parlez, comment vous comportez, pourquoi vous respectez des règles, etc. et pas d'autres. Donc une société produit plein de contrôle social. La police, c'est une institution qui a un rôle très spécifique là-dedans, mais qui n'est pas le rôle numéro un. Par contre, nous, on imagine qu'il y a du crime, et puis faut mettre la police. Ce qui fait qu'on entend les discours sur les violences armées à Montréal, et on observe tout de suite, en fait, il faut mettre de l'argent. Et là, les politiciens, très rapidement, mettent des millions de dollars dans les budgets policiers, en plus, pour permettre de lutter efficacement contre cette violence armée, soi-disant. Très rapidement, on entend des groupes communautaires dire oui, mais c'est nous la première ligne. Nous, on n'a pas d'argent, on demande des miettes qui nous sont données à chaque année, qu'on obtient des fois pas, etc. Même les chefs de police là, de Laval, Longueuil et Montréal se sont réunis pour dire il faut financer de manière plus importante les ressources communautaires parce que c'est eux la première ligne. Mais à un moment, il faut réfléchir pourquoi est-ce qu'on met tout cet argent dans la police et pas cet argent dans d'autres sources, en santé mentale, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels de mobilisation policière qui sont liés à des problèmes de santé mentale. Et à nouveau, avec toute la bonne volonté de la police, toute la formation que vous pouvez leur donner, ça reste que c'est pas des intervenants en santé mentale. C'est pas pour ça qu'ils sont arrivés dans ce métier-là. C'est pas pour ça qu'ils sont formés. C'est là où le problème est extrêmement complexe et demande à une réflexion sociale, de transformation sociale de la place de la police dans notre société. Pourquoi elle a pris tant de place? Pourquoi est-ce que le système pénal en général prend tant de place dans notre société? Je parle pas que de la police, mais de la justice, des prisons. Pourquoi c'est sans parler de définancement ou tout ça, c'est pas le débat de faut définancer la police, mais il faut réfléchir à la place qu'elle occupe. Et c'est une place importante. Hein. C'est que 11% du budget de la ville de Montréal, c'est le SPVM. C'est pas rien, c'est beaucoup d'argent. Donc, faut réfléchir à se dire, est-ce que c'est vraiment ça vaut la peine, parce que les budgets sont pas limités, donc il faut réfléchir à, peut-être faut mettre de l'argent aussi ailleurs. Je sais que la ville de Montréal y pense, mais c'est beaucoup des projets pilotes, des petits projets. Et est-ce que et puis le grand problème est le suivant, c'est que comme dans l'esprit des gens, la lutte au crime c'est la mission de la police. Si vous voulez, en tant que politicien, si vous voulez définancer minimalement un service de police, qu'est-ce qui va vous arriver à la première fusillade, premier événement assez, on va vous rentrer dedans et on va vous dire regardez ce que vous allez faire. Le syndicat va vous rentrer dedans. Et ce qui est normal, c'est le travail du syndicat. Il défend ses troupes, hein. Il défend le fait qu'il continue d'être important. Donc c'est quel politicien est prêt à dire non, mais vous vous trompez. C'est pas la police qui doit résoudre ces problèmes. Aller à l'encontre de cette position symbolique très très forte dans la société, à ce lien que tout le monde a fait dans sa tête entre crime police. Donc c'est sûr que vous êtes pas dans un il y a peu de politiciens qui veulent faire. Les dernières élections municipales, on a très bien vu que Denis Coderre en son Montréal, c'était là-dessus qu'ils attaquaient, puis que la réponse de Projet Montréal et de l'équipe de Valérie Plante, ça a été de dire ben, on va faire exactement les mêmes mesures que vous pourrez jamais nous attaquer là-dessus. Et c'était pour couper l'herbe dans le pied de Denis Coderre, mais c'est vrai que c'est très délicat parce qu'à nouveau, les gens associent crime, police. Donc, il faut qu'on réfléchisse un peu. Ça demande un changement de paradigme dans une société dans laquelle on se dit, mais pourquoi est-ce que à chaque fois qu'il y a une infraction criminelle, on est tellement, en train de penser que c'est le système pénal qui doit gérer ça? Y a-t-il pas des moyens alternatifs, des méthodes de justice alternatives, des méthodes de gestion des conflits, de résolution de conflits alternatives? Pas pour tout, hein, mais pour un certain nombre d'événements qui pourraient être pris en charge de manière alternative sans que ça soit le système pénal qui soit impliqué. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être plus constructif, que ça serait beaucoup moins coûteux, et qu'on aurait probablement une société plus juste en lien avec ça. Alors, à nouveau, c'est pas pour dire du mal de la police. Hein. La police défend sa part du gâteau. Très bien, par ailleurs. Ils font un excellent boulot et ils veulent pas trop en lâcher, c'est tout à fait compréhensible. Vous avez des policiers différents, hein. Vous voyez Fanny Daguerre à Longueuil, sa stratégie, c'est de reconnaître l'inadéquation, si vous voulez, entre la réalité du travail policier contemporain et le métier policier fantasmé qu'on peut avoir quand on veut devenir policier ou que la population des gens s'imaginent, donc c'est-à-dire arrêter des bandits, c'est sauter sur des criminels, Fanny Daguerre le reconnaît, il va dire par exemple, maintenant, c'est pas ça le métier de policier. Policier, c'est plein de problèmes de santé mentale, des problèmes de la précarité, des vulnérabilités sociales. C'est avec ça qu'un policier va dealer tous les jours. Donc moi, j'ai besoin de policiers, pas qui arrêtent bien des bandits, mais des policiers qui savent gérer ces situations-là. Mais ça, c'est sa logique, c'est-à-dire je veux réformer la culture professionnelle. C'est un gros chantier qu'il fait. Je pense qu'il est très compétent, Fanny Daguerre. Il a énormément de charisme en plus, donc je pense qu'il a une capacité éventuellement de faire du changement. Et il est plus intelligent aussi. La question qu'on peut lui poser, c'est lui dire oui, mais à quel moment ça sera encore des policiers? Et à quel moment faudra-t-il que ce soit encore des policiers? Pourquoi ne pas avoir des intervenants sociaux qui font cette job-là? Puis on pourrait me répliquer que ben, peut-être que c'est qu'il y a des interventions qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être physiquement à risque. Et donc, il y a sûrement des raisons, mais ça c'est la stratégie qui a été mise de l'avant par Fanny Daguerre. Et c'est pas forcément la même stratégie, et ça pourra donner des résultats parce que si vous voulez du changement dans la police, il y a un besoin de politique, d'investissement politique, c'est clair. Mais il y a aussi des directions de police qui ont leur mot à dire aussi. Et qui peuvent, même si c'est pas un coup de baguette magique et puis que c'est très difficile, mais qui peuvent chercher à modifier tranquillement, progressivement, une culture professionnelle, pour qu'elle soit peut-être un petit peu moins intéressée à arrêter des bandits et un peu plus intéressée à régler des conflits de la manière la plus pacifique et la plus juste possible.
C'est très intéressant. Je dois dire que je partage votre point de vue parce que si on se réfère seulement à Saint-Michel, le nombre d'escouades policières qui est là sous le prétexte de la baisse de la criminalité n'arrange pas vraiment le problème. Et je me demandais, en fait, est-ce que vous pensez que les mouvements un peu comme le Black Lives Matter ou le Forum Jeunesse, est-ce que c'est ce genre d'organisme communautaire, est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer? Si oui, quel genre de rôle vous penseriez?
Quel rôle, je ne sais pas, mais c'est évident. C'est-à-dire que moi-même, le rapport qu'on a produit avec Victor et Mariam, il n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu un travail de militantisme en amont. C'est par la pression de plein de groupes sur les autorités municipales à Montréal qui dénonçaient des problèmes de profilage racial depuis de très nombreuses années qu'à force, au sein de la municipalité, il y a eu une prise de décision qui a dit bon d'accord, maintenant on va demander à la police d'ouvrir ces données à des chercheurs indépendants, ces données d'interpellation. S'il n'y avait pas eu ce travail de militantisme en amont, je ne pense pas qu'il y aurait eu un politicien qui se serait réveillé un jour en disant « Hey, là, on va le faire ce truc-là ». Il y a eu, et donc, c'est clair qu'il y a un travail. Moi-même, mes recherches n'auraient pas pu démarrer là-dessus s'il n'y avait pas eu ce travail-là. Donc, c'est un travail extrêmement important, à mon avis. Après, c'est pas le seul, là, mais c'est un travail très important.
Alors, on vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette entrevue. C'est très, très, très instructif de vous écouter. On espère avoir l'occasion de vous recevoir à nouveau.
Merci beaucoup de l'invitation.
Merci et bonne continuation pour vos recherches.
Merci bien.
Merci.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Neolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Thank you.
woman.
Why, you black, ain't you?
Oh, yes, I'm black. So enough.
Thank you for tuning in, Quirk Car. You're with the one and only Miss Chris. This is Ask Miss Chris. I'll be right back with you, but in the meantime, I'm going to leave you with my girl, Nathy Biluso Mafiosa. See you later.